Chapitre 7. Apocalypse dans une théière ou les premiers pas d'une Lolita. Pied de sang dansait dans une petite allée. Ses pas se faisaient délicats sur la chaussée. Une sensualité. Elle adorait sentir chaque parcelle de son corps avant que le sang ne se mette à couler. Un véritable plaisir. Une telle simplicité dans le fait de déplacer cette masse, alors que tout semblait si lourd autour, une ivresse presque à respirer. Elle rentra dans la maison. Ses cheveux semblaient être vivants et se mouvoir selon leur propre gré. Si agréable. Solitudinaire était assis sur le canapé. Il observait se mouvoir dans cet espace réduit. Il ne pouvait pas bouger. Son corps était extrêmement pénible et douloureux. Il ne sentait plus le sang couler de la plaie, ni même le vide, mais une lancinante complainte qui courait à l'intérieur de lui-même. Il n'y avait que la beauté et un appel bien naturel qui sache à un moment calmer ce murmure. Elle vint se poser sur lui le plus naturellement possible, glissant ses mains sur sa nuque. Il aima cela. Elle le regarda longuement. Il posa ses mains sur son dos qui se cambra. Le front d'Anouchka se sertit de rubis. Solitudinaire commença à caresser l'intimité de ses os, ses mains pénétrant toujours plus en avant dans la chair de la danseuse. Elle lui sourit tandis que le sang ruisselait sur ses lèvres, tombant sur son menton et sur sa gorge. À son tour, ses mains envahirent le corps de son amant. Délicatement, elle masturbait sa colonne vertébrale. Lui en elle, elle en lui. Ses contacts étaient curieux, comme une délicieuse trahison, une curieuse impression de n'être pas juste, de n'avoir pas le droit de faire cela. Elle dansait sur lui, en lui. Une union parfaite entre deux êtres, deux corps, deux désirs. Ses cheveux l'envahirent par tous ses pores. Il aimait cela, faire partie de l'autre jusqu'à se mirer dans les yeux de pied de sang. Il se voyait en décalé. Un certain vertige le prit. Un miroir, un masque miroir. Escarre de tranchée. Le suicidaire l'observait, la tête penchée sur le côté. Il semblait lui montrer quelque chose au loin. Solitudinaire remarqua alors qu'il était adossé à un mur, par terre, du sang, plein de sang. La plaie saignait encore à peine, aucune douleur, juste l'ébauche d'une grande lassitude. Escar l'aida à se relever. Le suicidaire le poussa vers un pont suspendu qui menait à une curieuse maison. Un amas de planches parsemé de fenêtres ridicules, rien de droit, tout de travers. Et tout cela piqué sur un pic en forme de pied de poule, immense. Solitudinaire regarda les environs. Des champs entiers de détritus, des pics d'immondices jusqu'à l'horizon, et derrière, la grande dune qui annonçait le désert du grand n'importe quoi. Cette maison ressemblait à un château en ruine, aux frontières d'un royaume tout aussi en ruine. Solitudinaire resta un moment interdit devant cette affreuse beauté. Escar le poussa sur le pont. Il y eut un terrible craquement. Solitudinaire se figea. Es-tu vraiment sûr ? Demanda Vox à son ami silencieux. Celui-ci tendit un doigt d'aiguille vers le bout du pont et Solitudinaire vit apparaître une fine silhouette colorée. Une femme avec un fichu rouge sur la tête. Elle leur fit signe de s'approcher. Solitudinaire soupira en voyant l'état du pont. Ils avancèrent de concert. C'était une jeune femme d'une beauté ravagée. Son visage était gravé de la souffrance, mais il laissait vivre sur ses failles une certaine beauté. Elle était vêtue comme une paysanne d'antan. « Bonjour, » dit-elle. Vous venez prendre le thé ? Il y avait, derrière ces paroles, un accent slave qui se dessinait à peine. Il semblait presque invisible, imperceptible, et pourtant solitudinaire le reconnaissait. Esca montra la blessure de solitudinaire. Une ombre passa sur le visage de la jeune femme, avant que le sourire éclatant ne revienne redorer son blason. Elle lui fit signe de rentrer. Quand solitudinaire pensa devant lui, elle lui montra sa plaie d'un index qui ne cessait de tournoyer. Elle était passée devant Kolia, l'orphelineur de doigts, qui l'avait soulagée de son annulaire. « Vous n'en mourrez pas, » murmura-t-elle sur le ton de la douce confidence. « Bien au contraire, vous avez désormais une bien meilleure arme que vos adversaires. »« Qui êtes-vous ? Que voulez-vous dire ?» demanda Vox en se posant sur la grande table bancale. Un véritable Capharnaüm. Pas une parcelle qui ne fut pas envahie par un bibelot, un objet. Le plafond même était un empire de petites poupées de bois en métal, de porcelaine, pendues par centaines, avec toutes un sourire merveilleux. Des petites fenêtres colorées. Et au fond, près du feu, dans une longue chaise à bascule, Bud M. Knife Rizak, qui jouait avec son large couteau, Lisabetta. L'assassin le regardait amusé, tandis que solitudinaire se relevait de sa table pour fuir. « Il ne recommencera plus, » dit-elle en posant sa main sur l'épaule de Vox. Elle se mit à crier en russe. Naïf Rezak semblait blêmir de seconde en seconde. Le mot « Durak » revenait souvent. Solitudinaire faillit sourire, mais quelque chose le fit frémir. Le son de la voix de cette femme devenait de plus en plus froide, dure, presque inhumaine. Elle se voûtait au fur et à mesure de cette haine étalée. Ses cheveux devinrent gris et épars. Elle se retourna vers Solitudinaire et il la reconnut. « La croque-mitaine, » murmura-t-il. « On me nomme... aussi, ainsi, jeune homme, répondit-elle en le pointant du doigt, je préfère Agnieszka Lyubova. Oui. C'était une vieille femme sèche. Elle fonça vers la gazinière et poussa tout ce qui se trouvait à terre dans un fracas terrible. Bud sursauta. Elle chercha une casserole dans le lavabo voisin, la trouva, la remplit d'eau et la fit chauffer. Durant ce temps-là, elle fouilla dans un petit placard et sortit un plateau de biscuits rancis qu'elle posa sur la table après avoir donné un petit coup sur la poussière en un discret geste mystique. Elle posa une grande théière dans laquelle dormait un rat. Elle prit un des gâteaux et le posa sur le ventre de l'animal. « Cela lui donne un merveilleux goût, » dit-elle avec un sérieux qui ne tolérait aucune réplique. Le rat se réveilla et se mit à manger tranquillement le biscuit. C'est un enfant ? Demanda solitudinaire au bout d'un long moment.
Ben non ! S'écria Bud. C'est un rat pour le.
Oui, avoua la vieille femme. L'abomination en sème un peu partout. L'eau bouillait. Elle le versa dans la théière d'un coup rapide. Le rat se mit à hurler. La croque-mitaine sortit une longue aiguille de son fichu et le planta dans la nuque de l'animal qui se mit aussitôt à être pris de spasmes et s'immobilisa au bout d'une longue seconde. Bud était aux anges. Solitudinaire l'entendait rire silencieusement. Il ne pouvait se détacher de ce spectacle. Le sang s'infusa. La croque-mitaine versa à chacun sa tasse. Solitudinaire eut un haut le cœur quand vint son tour. Mais le regard de la vieille ne souffrait aucun avis négatif. Dans la théière, le rat reprenait vie et se mit en devoir de s'ébrouer comme si de rien n'était.
« Buvez !» dit la coquemitaine.
Escar montra de son interminable doigt longiligne la blessure de solitudinaire.
« bien sûr, » dit-elle de mauvaise grâce.
Elle s'approcha du blessé, ouvrit sa veste, sa chemise. Dès que sa main se posa sur solitudinaire, des images l'envahirent, comme pour Salicula. Une femme qui attendait sur le perron d'une vieille maison, des yeux comme des ruisseaux, le paysage brûlé d'une chaleur infernale sans aucune flamme à l'horizon. La mort rôdait sur toutes les peaux dévoreuses de cellules. Tous les êtres vivants pliaient l'échine devant sa faim. Cette femme, cette jeune femme, paysanne, attendait de l'aube à la mort du jour, de l'avortement de la nuit à la chute du soleil. Sa chair se creusa du rythme des minutes vaines. Elle perdit sa beauté, sa jeunesse, mais jamais elle ne souffrit d'espérer. Le village se désertifia. La végétation reprit son règne sur la terre des hommes. Les racines rongèrent ses chevilles. Les oiseaux firent de sa superbe chevelure des nids, puis des cimetières. Tout s'écroulait autour d'elle, mais elle attendait toujours. « Ta fille, » murmura solitudinaire. Agnieszka avait de nouveau le visage de son passé, un visage souriant, naïf. Elle pleurait. « Oui, le grand sarcophage me l'a pris, » dit-elle, « la grande brûlure du siècle. »
« Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Naïf Rezak. « C'est quoi ce délire ?»«
Il peut lire dans les souvenirs, » lui répondit la croque-mitaine redevenue vieille.
« Comme Arcadie ?»«
Mieux qu'Arcadie. » Elle se tourna vers solitudinaire. Agnieszka avait de nouveau la beauté innocente de ses 20 ans à peine. « Parle-moi de ma fille, » supplia-t-elle en lui tendant la main. Solitudinaire l'observa avec inquiétude, ce grain de démence dans ses yeux. Il saignait encore et cette pauvre jeune vieille, folle, voulait qu'il parle d'une fille que la folie des hommes avait contribué à dévorer. Qu'il lui dise combien elle avait souffert des jours durant, qu'elle avait haï rageusement ce corps que sa mère lui avait offert, qu'elle avait demandé aux soldats de la tuer à 12 ans. Tout ce qu'elle voulait, c'était mourir. Et tandis qu'elle appliquait un baume d'une puanteur atroce, solitudinaire restait pensif. Des choses tournaient dans sa tête. « C'est qui, Salicula ?»«
Une victime, » dit Agnieszka.
« C'est le jouet d'Arcadie, c'est-à-dire. » Arcadie est un joueur. Il aime prendre des âmes de l'autre côté et les faire venir. On dirait qu'il s'ennuie.
« Moi, il est venu me chercher !»
avoua humblement Bud en jouant timidement avec Lisabetta. Avant, il n'y avait que le clochard, le terminal, le maître des poisons, Trapas et son frère.
« Un géant !»
Solitudinaire se rappela son arrivée et ce géant qui gardait une porte rouge.
« Et moi !»
continua Agnieszka, la croque-mitaine, jusqu'à l'arrivée d'Arcadie. Il a changé la ville, sa nature, son essence même. Il sait faire le pont entre nos deux mondes, entre le passé et le présent. Il s'est servi de nos passions, de nos désirs pour assouvir sa domination. Il savait pour ma fille et pour celle du Terminal. Il s'est servi du maître des poisons pour emprisonner Terminal. Il s'est servi de Kolia pour attraper plusieurs d'entre nous. C'est le maître des jeux.
Il a créé sa propre cour,
ajusta Bud.
Vossem, Salicula, moi, c'est lui qui dirige tout. Mais ce n'est pas tout.
Quoi ? Demanda solitudinaire face à la soudaine hésitation de l'assassin.
Parle !
Ordonna la croque-mitaine. Solitudinaire n'aimait pas ce visage sévère que le temps de l'attente avait donné à la douce jeune femme. Bud, non plus apparemment. Son regard se cachait derrière son amante aiguisée.
Ah ! Il nous demande toujours de surveiller une maison au milieu d'un étang, dit Naifrezak en s'observant dans le reflet de la lame de Lisabetta. Il n'y a aucun moyen d'y accéder, mais Arkady l'exige chaque jour que le brouillard nous offre. Saligula a refusé pour rester dans son église. Vossem et moi, on s'en occupe.
Une maison ? Demanda Solitudinaire pensif.
Ouais, une seule et une petite maison au milieu de l'eau. Et ce n'est pas tout.
Tu es bien prolixe aujourd'hui, ria Agnieszka, joliment naïve.
Ah, je lui dois bien ça, répondit Bud en montrant la plaie de sa victime.
Alors ? Demanda Solitudinaire.
Arkady veut s'offrir un petit cadeau. Il aime bien nous parler quand il joue avec ses foutues cartes. C'est une jeune fille. Une Lolita.
Une Lolita ? Répéta pensivement Agnieszka.
Elle doit arriver aujourd'hui chez Trapas.
Solitudinaire se leva d'un bond. Il vacilla quelques secondes, mais resta debout. Il faillit sourire si ce baume ne rendait l'air si irrespirable. Il savait désormais comment frapper Arkady. Si il capturait cette Lolita, le maire devrait l'entendre et il pourrait fuir cet enfer. Et plus jamais, une aiguille ne viendrait blesser les abîmes inconnus de ses souvenirs. Il sortit de la maison bancale sans même remercier la jeune femme qui espérait encore le retour de sa fille. Escar de Tranchée n'avait pas bougé.
« Quel grand acteur tu fais, mon ami ?» dit la croque-mitaine en observant d'un sourire carnassier l'assassin.
« Ouais, je sais !»
répondit Naifrezak en faisant tournoyer gracieusement Lisabetta dans une valse exquise.
Le barman va réduire au silence Arkady quand il aura découvert ce que contient cette maison. Et après, je pourrai prendre la place du terminal et de sa sale gosse.
Et moi, je ferai payer à ce fils de chien cette attente sans fin dont il ne veut pas me libérer.
La vieille dame sortit le rat de la théière et d'un coup de dent lui trancha la tête. Elle jeta le corps dans le foyer et utilisa le crâne comme une friandise. Elle alla à la porte, elle sortit une bouteille de vodka de sa robe, cracha la tête dans le goulot et laissa filer le sang de sa bouche dans le liquide transparent. Elle se posa sur le perron et Agnieszka, comme chaque heure de la journée, se mit à attendre. Elle avala une longue rasade. Derrière elle, Naifrezak s'amusait à nourrir Lisabetta du sang de ses avant-bras.
Escar de Tranchée disparut à son tour. Solitudinaire le poussa à lui montrer le chemin le plus rapide pour arriver dans la Porte Rouge. Le suicidaire refusa, mais Caanophage les attendait de l'autre côté du pont. Il se jeta dans les bras de Solitudinaire. Il lui montra le nord comme s'il savait déjà ce qu'il voulait. Escar baissa les bras et se mit à courir comme il savait si bien le faire, en une suite de pas totalement de travers, sans aucune logique. La nuit tombait tandis qu'ils arrivèrent dans les ruelles sombres. Les premiers pas de la mémoire du barman déserteur. Ils arrivèrent enfin devant la Porte Rouge. Sans hésiter, Solitudinaire l'ouvrit et rentra, suivi d'Escar et du chien. Ils passèrent près de la chaise des sables et de son soleil de 75 watts. Ils rentrèrent dans la boutique si particulière de Trapas Trucifère, l'écrase-cœur. Ses rayons plongeants dans des noirceurs poussiéreuses étaient couronnés de légions de bocaux remplis de bris de verre. Des cœurs que ce curieux forgeron brisait d'un coup de marteau et qui symbolisait l'entrée dans la ville pour le nouvel arrivant.
« Te nommerai Krudvag !»
lança la grosse voix de Trapas à l'encontre d'une jeune fille aux cheveux rouges écarlates. Cette dernière se tourna vers Solitudinaire avec le même regard de surprise qu'il avait eu quelques semaines auparavant. Krudvag était d'une pâleur terrible. Le pourtour de ses yeux cerclés de noir faisait ressortir ses yeux clairs. Du rouge aux lèvres noires grimaient ses lèvres. Des vêtements de cuir limés jusqu'à l'usure.
« Solitudinaire ?»
demanda Trucifère.
« Je viens te prendre Krudvag, » répondit Solitudinaire.
« N'a pas le droit de la prendre avant que Vodka ait fait son travail. »«
On parle de moi ?» dit une voix bien connue derrière eux.
solitudinaire se retourna et vit l'ombre de Vodka sur le seuil. Il jonglait avec son tube de verre lumineux. Vox repensa à ce que cet être avait fait à pied de sang, encore qu'il ne savait pas ce qu'était son poison. Il n'avait pas osé lui demander. Mais Cadavriel, Escar, Vossem, Naifrezak, la croque-mitaine. Il se souvenait de toutes ces phrases assassines. « C'est à son tour ?»« Tu ne la prendras pas !» s'écria solitudinaire en s'avançant vers lui.
« Ouh, ouh !»«
L'enfant souvenir se rebelle !»« Je tremble !»« Et tu es tout seul !» Escar recula d'un pas. « Mais je ne suis pas venu tout seul, Soli !» dit Vodka. Cadavriel fit son apparition. Il fit claquer son aile. Escar sursauta. « Attaque, canophage !» hurla solitudinaire. Le chien se figea sur place. Cadavriel plongea sur solitudinaire. Il le frappa de son aile. Solitudinaire vola à travers la salle et traversa la porte arrière, par celle-là même où il était sorti la première fois avec sa nouvelle identité. Vodka attrapa Creux de Vague qui tenta de se défendre, mais le maître des poisons était vraiment plus fort. Escar de Tranchée resta figé sur place. Solitudinaire tenta de se relever, mais ses avant-bras lui faisaient atrocement mal. Cadavriel l'observait avec un cynisme affiché. Les deux hommes s'observaient avec intention. L'aile de Cadavriel semblait s'agiter, prête à en découdre. Quant à Solitudinaire, il essayait de résister à cette douleur qui ne cessait de l'envahir. Il vacilla presque sur ses jambes, mais se garda bien de montrer sa faiblesse. Il se souvenait du corps de Pierre de Sang dans son étrange rêve. Il aurait presque ri à l'évoquer ainsi devant son adversaire. Vodka. Tout cela était de sa faute. Creux de Vague apparut sur le perron. Elle semblait hagarde. Solitudinaire comprit au sourire que de son vieil adversaire que la chose avait eu lieu. Le maître des poisons jubilait.
« Voilà, Soli !» dit Vodka.
« Tu as encore
perdu !»«
Ce n'est pas un jeu, » répondit Solitudinaire. « Oh, c'est que tu n'as pas encore rencontré Arcady. »« C'est quoi sa punition ?»«
Tu m'as fait mal, connard !»
hula Creux de Vague à l'encontre de Vodka.
« C'est la vérité, sa punition, »
dit le maître de poison.
« Ouais, que t'es un putain de connard ! Ouais, ça c'est sûr !»
La jeune fille fusillait du regard Vodka. Escar de Tranchée apparut à côté de Solitudinaire. Il avait dû sortir par l'autre porte. Il tendit la main vers la jeune fille. Elle sembla happée par son masque miroir, mais s'avança vers lui.
« Non, » menaça Vodka. « Tu viens avec moi, jeune fille. Arcady t'attend. »«
Non, elle part avec nous, » dit Solitudinaire, oubliant avec ravissement sa douleur. Vodka sortit une longue lame de sa veste, mais plus rapide, l'aile de Cadavriel claqua devant lui, l'empêcha d'avancer.
Qu'est-ce que tu fais ? Demanda le maître des poisons.
Tirez-vous ! Dit Cadavriel. Solitudinaire n'attendit pas plus longtemps. Il attrapa la main de Creux de Vague, mais celle-ci s'échappa et préféra Escar de Tranchée. Ils disparurent aussitôt.
Pourquoi ?
Demanda Vodka en rangeant sa lame.
Tu oses me demander cela ? Dit Cadavriel. Je ne veux rendre aucun service à Arcady.
Mais alors pourquoi être venu ?
Pour justement ne pas rendre service à Arcady. Il va te le faire payer.
C'est-à-dire qu'il y a pire que ce qu'il m'a fait ? Cadavriel replia son aile lentement et se retira dans la boutique. Vodka l'observa et se retourna vers le vide qu'avait laissé le trio.
Ouais, on va enfin s'amuser.